les jardinières.
Perce-neige, prime vert et même jonquille fleurissent, les forsythias bourgeonnent. Plus de doute, le printemps arrive. Comment préparer justement l'arrivée de cette nouvelle saison? Des questions qui trouveront certainement réponse chez les jardinières. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène.
Et puis il s'est levé tôt pour nous rejoindre ce matin. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour tout le monde.
Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves. Merci d'être avec nous ce matin.
Et soyez les bienvenus chez les jardinières. Nous parlerons de taille ce matin et nous répondrons également à vos questions jardinage jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Gentiment mais sûrement, la nature se réveille et l'air se radoucit. Bientôt l'hiver ne sera qu'un souvenir et les rayons des jardineries fleurissent de matériel de jardinage. Alors dites-nous Jean-Pierre, on fait quoi ce week-end en extérieur, si on peut faire des choses?
Oui, alors bien sûr, et puis je crois que la météo sera correcte, donc ce sera intéressant de passer son temps dans son aménagement. On a évidemment toutes les tailles qui restent encore à réaliser, et en reste encore passablement, je pense. On a du choix sur selon les végétaux, on en parlera tout à l'heure. On a aussi les premières tontes, je crois, selon les pelouses. On a quand même eu un fort développement de pelouses les 15 derniers jours. Et puis pour ne pas être embêté pour la première tonte, eh bien mieux vaut s'y prendre très tôt. Puis là, on a déjà sorti quelques machines pour entretenir ces surfaces vertes. Et puis bien sûr, on a aussi les mises en place d'engrais sur les pelouses. On peut commencer les scarifications, on a les entretiens de plates-bandes, de massifs, où il y a de la mauvaise herbe qui peut déjà arriver, qu'il faudra entretenir, biner. Il y a de quoi s'occuper.
Merci beaucoup Jean-Pierre, vous allez aussi répondre aux questions de nos auditeurs. Et pour nous les faire parvenir, toujours trois possibilités. La première, c'est par téléphone au 0900 170 20 20. Vous parlerez en direct avec Jean-Pierre. Vous pouvez aussi remplir le formulaire sur notre site et vous pourrez joindre une photo à votre question ou alors nous écrire un SMS. Vous tapez « jardin » un espace suivi de votre question et de votre nom et vous nous l'envoyez au 939.
C'est de taille et de taille de formation que nous allons parler juste après la pause musicale.
7h, 8h, les jardinières.
La taille de Mars s'applique à une grande gamme de plantes et est essentielle pour avoir une belle floraison en été. Alors, quand et comment procéder à la taille de ces plantes en Mars? On en parle avec notre spécialiste Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves. Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez nous dire quels arbres ou arbustes on peut encore tailler là ce week-end du 9 mars?
Alors oui, bien sûr, à cette période, on a encore passablement de taille à réaliser. On a, si on parle fruitier, bien sûr, tout ce qui est de taille de formation qui pose pas de problème, qu'il faut absolument réaliser. On a des stades de la vie du végétal qu'il ne faut pas rater, et puis une taille de formation est justement ce genre d'éléments à pratiquer. Et puis on a les tailles d'arbustes qui ne sont pas en fleurs, ceux qui vont fleurir plutôt sur l'arrière-saison. Tout ce qui est d'arbustes à fleurs printaniers, on va tenter de les tailler beaucoup plus tard, donc ceux-là, on va les épargner, mais tout ce qui est d'arbustes d'automne et autres, ceux-là, on va pouvoir les tailler pour régénérer la végétation et garantir une floraison épanouie. On a bien entendu tous les plates-bandes de rosiers, même rosiers grimpants, arbustes et autres, qu'il faut tailler à cette période, c'est indispensable. Le but, c'est justement de régénérer ces plants. Et puis, après, dans les vivaces, ça, en théorie, on devrait déjà les avoir pratiqués. Donc, on est plutôt sur le matériel ligneux, tout ce qui est d'arbres, arbustes et autres à bois. Ceux-là, on est encore en pleine période de taille. Il y en a quelques-uns, on parlera tout à l'heure, qu'on va peut-être éviter parce qu'on est dans une période de végétation qui a déjà passablement avancé selon des espèces. Mais tout ce qui est encore latent, qui n'a pas trop démarré, et puis ces tailles de formation à l'évidence, on est en plein temps pour la réalisation.
Ben justement, on devrait laisser tranquille certaines espèces, pardon. C'est déjà tard pour les tailler. Vous parlez desquelles exactement?
Alors justement, tout ce qui est d'arbustes à fleurs, on a les amamélis qui sont en fleurs, on a les viornes qui sont en fleurs, on a les forsythias qui vont tenter. Donc tout ce qui se présente à fleurs, maintenant on va tenter les laisser pour laisser s'épanouir cette floraison, profiter de cette floraison. Ça c'est des tailles qu'on va réaliser plus tard, après floraison, comme ça. Une fois taillés, ils vont devoir se régénérer d'eux-mêmes et puis s'épanouir pour une nouvelle floraison pour l'année 25. Et puis dans les arbres fruitiers, alors ce qui devient difficile à tailler maintenant, c'est évidemment le cerisier, parce qu'on a les bouquets de mai qui commencent déjà de se gonfler passablement. Une taille dans un grand sujet provoquerait de grosses casses sur ces éléments fruitiers, et puis cette casse évidemment mettra en péril une bonne récolte. Et puis on se rend compte aussi maintenant, pour ceux qui en ont dans leurs aménagements, les abricots, les pêchers, ceux-là ils sont vraiment en pleine fleur, et puis là on peut plus les toucher, si ce n'est peut-être si c'est des arbres qui sont en palissade côté façade, peut-être profiter de les protéger avec un flims, une bâche, un tissu, une couverture, pour justement provoquer, les protéger, je veux dire, des gelées tardifs. On a eu un fort gel hier matin, on espère qu'on n'aura pas eu trop de cas sur ceux qui n'étaient pas protégés. Pour ceux qui ne sont pas protégés, ça vaut la peine, si c'est facile à les protéger justement avec une protection de ce genre, pour justement garantir une super récolte. Il est assez facile chez nous d'avoir des fruits sur en tout cas ce qui est des abricotiers. Le pêcher est un peu plus délicat au niveau des maladies, mais pour celui qui prend soin de son abricotier et autres, il peut être garant d'avoir une jolie récolte au mois de juillet.
Jean-Pierre, une question qui pourrait paraître un peu bête comme ça, mais dites-nous pourquoi est-ce qu'il faut tailler les arbres, vous l'avez dit tout à l'heure, régénérer ces plants, il y a d'autres bonnes raisons ?
Oui, alors chaque arbre a un peu son principe de végétation et puis de régénération à lui-même. Par exemple, si on prend le rosier, on sait que le rosier va fleurir sur le bois de l'année, et puis le fait de tailler va provoquer beaucoup de pousses. Et puis évidemment, si on a beaucoup de pousses, de démarrage sur le rosier, vous aurez un maximum de floraison durant l'été. Et puis pour ce qui est des arbustes à fleurs, c'est surtout régénérer le vieux bois pour ramener du bois jeune et frais à maturité et puis avoir un épanouissement au niveau de la fleur. Si on prend les petits fruits, on va supprimer les vieilles branches de 3 ou 4 ans pour justement entretenir un pied avec des sarments plutôt jeunes sur lesquels on aura un maximum de production de fruits, de petits fruits. Et puis pour ce qui est des fruitiers, c'est surtout donner une structure à la végétation. Alors il y a plusieurs styles de fruitiers, on a le palmette, on a le fuseau, on a les basses tiges, mi-tiges, hautes tiges, mais c'est toujours pour coordonner une structure dans le bois, pour permettre justement un épanouissement, un maximum de luminosité à l'intérieur pour des fruits sucrés et colorés, et puis également pour permettre de supporter les charges à ces végétaux quand il y a une forte mise à fruits, ou du givre ou de la neige pour éviter les casses, parce que si on les laisse se développer et trop en longueur ou sur les côtés, évidemment les longueurs de porte-à-faux avec des lourdes charges, que ce soit fruitier ou autre, on risque de fortes casses, et puis on sait que ce qui est cassé ne va jamais redémarrer, et puis c'est souvent les branches qui nous intéressent le plus qui cassent, donc c'est vraiment un entretien important, et puis pour pérenniser cette culture, cette végétation. Et puis il faut aussi dire qu'un fruitier bien taillé donne plaisir à l'amateur, au passionné de la végétation, parce que notre de temps en temps, on se rend compte qu'on a des espèces de balais comme ça qui se trouvent dans des situations catastrophiques, et puis on se rend bien compte que c'est plutôt des arbres qui vont pouvoir produire que des petits fruits, des fruits qui ne seront pas sucrés, pas très mûrs. En plus, ça va provoquer des maladies telles que la moniliose ou autres, parce qu'on va manquer d'air, de lumière dans cette végétation, et puis ça va vraiment péjorer les mises à fruits.
Merci beaucoup Jean-Pierre. La suite, c'est en musique, et puis après on parlera un peu plus précisément de taille et de formation.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, chez les jardinières, nous parlons de taille. On a parlé taille d'entretien en première partie. Alors on voulait savoir encore, Jean-Pierre, que cette taille, elle doit quand même pas être un massacre ni une torture pour la plante. Elle doit permettre à la plante de se régénérer, de faire des nouvelles pousses. Du coup, pour éviter ce massacre, il faut suivre quelques règles. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes, Jean-Pierre ?
Oui, alors si on parle de massacre et torture pour un végétal, ce serait de lui casser des branches, de lui arracher des charpentières sur le tronc, de faire des tailles de biais, de laisser des chicots, ça veut dire des sections de bois que vous laisseriez sur une branche de 2-3 cm. Ça provoquerait un énorme redémarrage de végétation. Et puis là, évidemment, l'arbre, il sera en tourmente, il partirait tout à bois, puis vous n'auriez aucun risque d'avoir beaucoup de fruits, parce qu'évidemment, l'arbre se serait branché sur production de bois à cause de, si l'on peut dire, ce massacre de ce sécateur, de l'arboriculteur qui l'aura taillé. Par contre, si on prend soin justement de quelques mesures qui ne sont pas très difficiles à comprendre, avec un sécateur bien aiguisé, on va faire des plaies le minimum de grandeur possible. On les fera toujours à l'équerre, on ne fera jamais des coupes de biais parce que l'histoire de la toiture sur une coupe de charpentière ou de branche est une théorie qui va pour le toit de la maison, mais en tout cas pas pour une branche. Ce qu'il faut comprendre, plus on fera une coupe de biais et plus la section à cicatriser pour le végétal sera grande, et puis il faudra beaucoup plus de temps pour la refermer et éviter les maladies. Et puis il y a aussi des fois, on doit intervenir sur les troncs, parce qu'on a des branches qui sèchent, on a des branches de trop, et puis là, il faut aussi tailler à 45 degrés, on va pas aligner une coupe sur un tronc, parce que si vous alignez vraiment en ligne, vous allez supprimer une bonne partie des cellules qui devraient justement permettre la cicatrisation de cette branche, et puis plutôt que de cicatriser, eh bien vous allez encore dessécher de plus une partie de cette écorce qui devrait permettre la fermeture de ces plaies. Donc si on observe un peu un travail qui a été réalisé par un professionnel, on va se rendre compte de comment est-ce qu'il s'y est pris. Et puis après, tout à chacun de reproduire un peu ce principe de taille sur ce végétal pour justement limiter ces massacres qui pourraient occasionner des gros dégâts sur la végétation.
Merci Jean-Pierre. On va parler maintenant de la taille de formation. Est-ce que c'est la même manière de procéder que pour la taille d'entretien ?
Alors non, si on prend taille de formation, parce que le privé qui prend l'entrain à la fruitier va devoir commencer par cette taille de formation. Là, on va demander du bois sur les extrémités des charpentières et de la cime pour lui demander justement ce développement souhaité. Là, on va lui demander du bois parce que c'est un jeune sujet, parce qu'il faut justement le mettre à bois. Il doit se développer avant d'avoir des éléments fruitiers. Et puis ça va justement nous permettre de dégager un axe principal qui ne doit pas être trop dominant. On aura aussi une structure de charpentière en dessous qui devra être épanouie avec 3 ou maximum 4 charpentières, parce que plus vous en laisserez, moins vous aurez de luminosité, plus vous aurez de problèmes dans le temps et puis des fruits de moindre qualité. Et puis on va éviter d'avoir des parallèles ou des concurrentes justement dans les prolongements de ces éléments fruitiers. C'est les plus importants, on dira, hein. Bien sûr vous avez le tronc, mais après tout ce qui est de charpente et cime, c'est les structures futures qui vont vous faire un arbre épanoui. On va chercher à les répartir uniformément sur le pourtour. Et puis là-dessus, après, on va travailler avec des éléments fruitiers. Ce sera des brindilles, des branchettes, sur lesquelles on aura des bouquets de mai, par exemple, sur le cerisier, ou des éléments fruitiers à fleurs sur les autres. Il faut comprendre qu'on va tailler, on va enlever le bouton terminal uniquement des charpentières et de la cime, parce que c'est là qu'on va demander du bois. Et puis pour le reste de la structure, on va toujours chercher à laisser un bouton terminal. Ça peut être un bouton de fleur, un bouton de bois, c'est égal, mais le fait de ne pas l'avoir dérangé, là vous aurez une mise à fleurs, à fruits sur les éléments, les sous-charpentières. Et puis justement, on va quand même chercher à énerver un peu les charpentières pour tirer en avant la végétation, puis le développer. Et puis après, à l'inverse, sur une taille d'entretien, eh bien là, je peux déjà vous dire que le sécateur, il faut le laisser en bas de l'échelle, il ne faut pas le prendre avec. On va prendre uniquement une scie et puis on va sectionner des branches qui sont gênantes, qui sont trop longues. On va limiter ses porte-à-faux, on va chercher à mettre de la luminosité dans l'arbre. Mais à l'évidence, une taille d'entretien sur un grand sujet, le sécateur n'est plus du tout requis, c'est uniquement la scie. La tronçonneuse n'est pas adaptée parce qu'évidemment, c'est dangereux pour tout le monde. Et puis là, ben, effectivement, on va chercher justement cette luminosité, diminuer les longueurs pour éviter les porte-à-faux. Et puis là, vous vous en sortez aisément bien. On a aussi de temps en temps des gros démarrages de tire-sève, de brindilles à l'intérieur, à la verticale. Celles-là, on peut déjà les enlever en été. C'est toujours un travail qui se fait obligatoirement à la scie. À la scie, l'avantage, c'est que elle va pas couper très propre la branche en question, elle va un peu éreinter les yeux dormants qui se trouvent à la base de chaque pouce que vous aurez enlevé, et puis le fait de les enlever, ces yeux dormants, eh bien vous aurez beaucoup moins de redémarrage de sarment l'année d'après. Par contre, si vous le faites au sécateur, puis en plus avec un petit chicot d'un centimètre ou deux centimètres, eh bien là vous courez à la catastrophe, parce que vous les redemandez du bois à des endroits où vous en voulez en tout cas pas, et puis vous allez un peu épuiser votre végétal.
Jean-Pierre, je m'excuse de vous couper, on vous écouterait encore des heures. Mais il est l'heure de passer à la musique, à la météo, l'inforoute. On se retrouve juste après. Ne posez pas trop loin votre sécateur et votre scie. On va encore parler de taille de formation.
Les jardinières.
Suite des jardinières et toujours en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves.
Jean-Pierre est là aussi pour répondre à vos questions jardinage. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 0901 70 20 20, mais aussi remplir le formulaire sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières et ajouter une photo à votre question. Ou simplement nous écrire un SMS, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question et de votre nom, et vous nous l'envoyez au 939.
Jean-Pierre, en première partie d'émission, nous avons parlé taille d'entretien et taille de formation. C'est sur ce deuxième point qu'on va revenir un petit peu. Alors, vous nous avez expliqué comment pratiquer cette taille de formation. Est-ce que tous les arbres ont besoin de, j'ai pas envie d'utiliser le mot subir, mais de passer par la case taille formation, ou c'est réservé aux fruitiers?
Non, alors tous les arbres sont supposés avoir un petit peu d'entretien et de formation déjà à la plantation, puis bien sûr par la suite. Si je prends, bien sûr les fruitiers on a parlé, si je prends les arbres d'avenue, un tilleul, un saule pleureur, un lilas tige, c'est toujours des arbres qui vont nécessiter une taille de formation au démarrage. Alors en général, c'est le pépiniériste qui devra l'avoir réalisé, qui aura donné les bases de cette formation. Mais évidemment, le pépiniériste ne va pas suivre ce végétal chez vous. Et puis c'est après un professionnel ou vous qui pouvez tenter de suivre et d'entretenir, de former ce végétal. Et puis là, eh bien, on va chercher à enlever les branches qui seront soit blessées, soit malades. Il y a des fois des chancres qui se développent. On a aussi des fois des branches, on le voit au démarrage, c'est des branches qui, au démarrage donc de la branche, c'est des branches qui se poussent l'une de l'autre. Elles se développent, mais la liaison entre les deux branches, on se rend bien compte que c'est deux éléments qui se gênent l'une et l'autre. Et puis, ça arrive encore souvent quand c'est des charpentières ou sur des axes principaux. Et puis là, il faut vraiment les enlever tout de suite quand on voit qu'il y a ces liaisons qui sont négatives, parce que dans le temps, eh bien, c'est de toute façon des branches qui vont se détacher l'une de l'autre. Il y en a une qui va casser et puis qui va occasionner d'autres dégâts. On va choisir les bonnes liaisons. On va aussi choisir justement toutes les structures qui nous incombent. Taille de formation est indispensable aussi pour donner la grandeur du végétal futur. On va chercher une hauteur de couronnement par rapport à l'entretien du végétal, ce que vous voulez en faire, s'il y a de la végétation, de la circulation dessous. On a des gabarits donnés pour ne pas avoir de dégâts après sur ce végétal, selon si c'est des voitures, des camions et autres.
Et Jean-Pierre, si on ne pratique pas la taille de formation les premières années sur notre arbre, qu'est-ce qui va se passer ensuite ?
Eh bien justement, on aura des branches qui vont vraiment se gêner l'une de l'autre. Dans le temps, on aura un dessèchement d'une partie de ces branches, de ces charpentières, de ces grosses structures, parce que manque de luminosité. Et puis pour entretenir la végétation, et puis que cet arbre soit épanoui à la mise à fruits, ou qu'il soit décoratif dans l'aménagement, eh bien il faut vraiment en supprimer quelques-unes. Donc de ne pas les tailler, ça va donner des espèces de buissons touffus. Vous aurez énormément de déchets, de branches qui vont chuter durant tout l'été, parce que cette élimination naturelle va se faire sur tout le long de la saison. Et puis, à l'évidence, vous n'aurez pas une végétation qui va se pérenniser dans le temps, qui va pouvoir s'épanouir et puis espérer avoir des tilleuls ou des chênes qui arrivent à 300 ans, parce qu'évidemment, eh bien, il y aura ces contraintes naturelles de trop dense au démarrage.
Jean-Pierre, la taille de formation, on peut la pratiquer encore maintenant. Ça se fait sur des jeunes arbres. C'est pas dangereux pour eux, là, par exemple, si on a des gelées qui reviennent, comme vous l'avez dit hier, il a fait très froid. Peut-être qu'il y a encore les seins de glace qui vont arriver. Ça peut perturber l'arbre ?
Non, pas du tout. Une taille ne peut pas perturber la végétation, même faite à cette période. Une taille tardive va occasionner des dégâts sur les ramifications fruitières, sur les bouquets qui auront déjà gonflé, les abricots, les pêches, on a dit, qui sont déjà en fleurs. Là, si vous touchez la moindre des brindilles, elle va casser, puis vous allez le perdre dans le temps. Par contre, tout ce qui n'a pas encore trop démarré, ou une taille de formation, même sur cerisier, avec des boutons gonflés, mais un jeune sujet, là, vous n'avez pas ces bouquets de mai, c'est une taille au sécateur, et puis il n'y a aucun risque. En plus, des végétaux qui sont vraiment adaptés à notre situation. C'est pas une taille qui va provoquer un dégât de tailler maintenant ou de par le froid ou autre.
Merci beaucoup Jean-Pierre pour vos conseils. On rappelle à nos auditeurs que si vous voulez de bons conseils, n'hésitez pas à faire appel aussi à des professionnels. Et puis on se retrouve pour la suite des jardinières dans quelques minutes où nous répondrons aux questions reçues.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Et il est temps de répondre à vos questions que vous pouvez nous faire parvenir par trois possibilités, Brian.
Et oui, la première, c'est par téléphone au 0901 70 20 20. Vous pouvez aussi remplir le formulaire sur notre site internet sous l'onglet « Émissions questions aux jardinières » et ajouter une photo à votre question. Ou alors simplement nous écrire un SMS, vous tapez « Jardin » un espace suivi de votre question et de votre nom et vous nous l'envoyez au 939.
Jean-Pierre, nous avions reçu une photo d'un bonsaï la semaine dernière et puis on espérait compter sur vous pour avoir plus d'informations pour le sauver. Alors c'est Cyril De Baulle qui nous écrit « Bonjour, j'ai acheté un bonsaï. Il est environ 2 mois, je n'arrive pas à le récupérer, que faire ?» Et puis sur la photo, bah c'est vrai qu'on voit ce bonsaï un peu au bout de sa vie.
Qui est tristouné. Oui, bonjour Cyril. En fait, je crois que vous avez un bonsaï qui est dans la variété, dans les essences des olisbiers. Et puis, en fait, il a certainement péri par un manque d'humidité. En tout cas, je ne suis pas sûr que vous arriverez à le récupérer. Pour essayer de tenter une sauvegarde, la maison, ouais, il faudrait le remettre en pleine terre, je pense, dans un petit carreau chez vous, si vous avez un espace de potager ou une plate-bande. Moi, j'enlèverais le pot, je le mettrais dans le terrain naturel avec un bon arrosage et puis espérer qu'il redémarre. Le laisser dans ce pot-là, dans l'état qu'il est, ce sera compliqué. Et puis, comme il a déjà passablement manqué d'eau jusque-là, si vous le remettez dans le terrain naturel, il aura l'humidité naturelle. Ce sera nettement plus facile pour vous d'espérer le sauver, sans trop d'entretien pour le moment. Et puis, si il se remet à redémarrer des boutons d'ici un mois, eh bien, à ce moment-là, vous entretenez, vous coupez tout ce qui aurait été sec. Et puis, après, vous pourrez le remettre dans le pot. Mais évidemment, il faudra vraiment l'arroser. C'est un olivier. Il faut savoir que l'olivier, il demande quand même un peu d'eau, malgré qu'il est super robuste au sec. Mais là, je pense qu'il était dans une situation très sèche, une température très chaude dans un appartement. En plus, vous avez un pot en terre cuite qui a passablement consommé l'humidité que vous avez mis au pied de l'olivier, parce que la terre cuite est quelque chose qui transpire, qui absorbe cette humidité. Et puis, vous en êtes arrivé à ce dégât. Mais, et puis, vous n'avez pas de souci à avoir de le mettre en pleine terre maintenant. Il faut savoir que même chez nous, sur l'Ajoie, une bonne partie des oliviers passent leur hiver dehors. Maintenant, on n'a aucun dégât. Ils sont même plus épanouis quand on les passe dehors en hiver que de les mettre dans des recoins, dans des garages, dans des endroits où soit il fait trop chaud, soit il n'y a pas assez de luminosité, parce que c'est des éléments qui sont péjorants. Tandis qu'en pleine nature, eh bien, ils passent très bien les hivers. Maintenant, chez nous, donc, le seul conseil que je peux vous donner, c'est vraiment leur mettre à l'espace nature, dans un terrain frais, une terre végétale, vous enlevez ce pot et puis vous le laissez s'épanouir. Et puis si vraiment dans un mois et demi, il n'a pas redémarré, eh bien ma foi, faudra revoir pour un futur achat.
Ou alors nous réécrire et on vous donnera d'autres conseils. Merci beaucoup Jean-Pierre. Brian, vous avez une personne au téléphone.
Exactement, c'est Marie-Louise qui nous appelle de Vic. Bonjour Marie-Louise.
Bonjour.
Marie-Louise, votre question à notre spécialiste.
Alors, on a un verger dans un champ où on fait un jardin.
Oui.
Maintenant, avec l'âge, j'aimerais le rétrécir d'au moins 1,5 m. Et j'aimerais... Je dois arrêter la radio, quoi.
Oui, c'est mieux si vous baissez le son, Marie-Louise, ça sera plus agréable.
Je m'entends, ça va pas.
Oui, oui, vous pouvez sans autre couper le son.
Ça marche.
Merci.
Alors, j'aimerais, plutôt que d'y mettre de l'herbe, y mettre une prairie fleurie, comme on voit maintenant.
Oui.
J'ai des sachets ici que j'ai reçus. C'est vraiment beau. Et puis, mais comment faire et quand et comment?
Oui. Alors c'est assez facile, on est un peu précoce encore, on est début mars et puis la terre est quand même encore passablement humide et puis on n'arrive pas à l'affiner assez pour la travailler. Mais d'ici 15 jours, 3 semaines, quand on aura ce printemps qui s'établit avec une température clémente et puis moins d'eau, quand vous pourrez passer un petit coup de motoculteur ou de machine, je ne sais pas comment vous êtes équipé dans le cadre de votre potager, mais et puis si vous n'avez pas de machine, ce qu'il faudra faire, vous grattez le sol sur 3-4 cm, vous cherchez à avoir une surface assez plate pour pouvoir permettre un entretien derrière relativement facilement. Et puis, vous pouvez épandre cette semence que vous avez à la volée. Soyez attentive au niveau du grammage mètre carré. C'est souvent des semences où on doit mettre 3, 4 ou 5 grammes au mètre carré. Donc, dans une main, vous avez tout de suite 30 grammes. Donc, vous avez meilleur temps de mélanger. Pardon. Vous avez meilleur temps de mélanger le sachet que vous avez dans un bidon de sucre ou de sable. Vous mélangez comme il faut votre semence à ce ballast qu'on appelle comme ça. Et puis après, ben, vous semez ce bidon que vous aurez obtenu sur l'ensemble de la surface que vous voulez fleurir. Vous pouvez passer deux fois, trois fois en semant. On sait que vous aurez une petite quantité de grammes dans la main, mais c'est pas grave. L'important, c'est que ce soit uniforme sur l'ensemble de la surface. Et puis après, soit vous passez un petit rouleau si vous en avez un, soit sinon vous prenez une pelle plate et puis vous tapotez la surface pour lier la semence à la terre. C'est souvent des semences qu'on ne doit pas enfouir, on doit vraiment les laisser en surface, voire à moins un centimètre. Mais donc juste d'avoir gratté le sol, semé et passé un coup de pelle plate pour aplanir un peu cette surface, eh bien la semence va s'épanouir et puis vous aurez quelque chose de joli durant cet été. Après, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez acheté comme semence, mais il y en a une multitude de semences. Si c'est des plantes avec de l'annuel dedans, ce sera déjà super coloré cet été. Si c'est un mélange qui est au 80-100% de plantes vivaces, eh bien, il faudra prendre un peu patience parce qu'il faut en général une année à deux ans pour que les premières fleurs s'épanouissent.
Voilà, Marie-Louise, on espère D'accord. que vous allez pouvoir suivre les conseils de Jean-Pierre. Et bientôt, bah, pourquoi pas nous envoyer des photos de votre prairie fleurie ?
Pourquoi pas ?
Merci.
J'attendrai le temps.
Merci. Merci beaucoup, Marie-Louise. On va faire une petite pause musicale avant de se retrouver pour la dernière partie des jardinières.
Les jardinières.
Quelques minutes, Jean-Pierre, pour répondre encore à quelques questions. Celle de Béatrice du Locle, pour commencer. Donc, Béatrice habite au Locle, à 1000 mètres d'altitude. Elle a des rosiers qui mettent de belles pousses. Est-ce qu'elle demande, est-ce qu'il faudrait les tailler maintenant ou attendre la fin du mois de mars ?
Non, alors elle peut vraiment les tailler, c'est la très bonne période, malgré les 1000 mètres d'altitude. Et puis tailler, on rappelle, c'est 3 à 5 cm maxi. Ce qu'il faut, c'est forcer la végétation à redémarrer, à avoir des nouvelles pousses sur le collet de greffe pour justement rajeunir ce rosier. On sait qu'il fleurit sur le bois de l'année, donc plus on taille, plus ça pousse, plus il y aura de la fleur.
Et puis Jean-Pierre, on a encore reçu cette dernière question de Christophe de Kourou. Les besoins en eau des plantes vertes d'intérieur sont très variables. Comment arroser correctement, suffisamment mais pas trop, les plantes vertes ? Y a-t-il une astuce pour cela ? Il nous a joint une jolie photo d'une plante bien arrosée.
Oui, alors effectivement, la plante, elle est épanouie. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'elle est dans un cache-pot. Et puis, ce cache-pot ne nous permet pas de voir la sous-tasse. Et puis, évidemment, on peut pas avoir de contrôle par rapport à la quantité d'eau et puis ce qui va rester dans cette sous-tasse. Donc, pour faciliter l'entretien d'une plante d'intérieur, eh bien, si on peut avoir le pot et la sous-tasse visible, je dirais une plante comme celle-là, eh bien, tous les deux jours, je pense qu'il faut y mettre 1 demi-litre d'eau. On remplit la sous-tasse pour ne pas avoir d'écoulement dans l'appartement. Et puis là, vous êtes garant d'avoir un arrosage régulier et puis contrôlé surtout, parce que là, avec ce cache-pot, eh bien, si vous arrosez par-dessus, il y a de fortes chances que vous ayez des écoulements du surplus d'eau de la sous-tasse et puis ce sera catastrophique. Après, c'est plus facile d'avoir de l'hydroculture. Tout le monde connaît l'hydroculture. Vous avez les jauges, la quantité d'eau qui monte dans la mesure, mais dans le cas présent, sur une plante en pot, et puis là, d'autant plus que c'est une plante qui se trouve dans un pot en terre cuite. Cette terre cuite va consommer de l'eau, donc l'avantage, c'est de contrôler dans la soucoupe le surplus et puis de rajouter quand vous voyez que ça a diminué depuis une demi-journée. Comme ça, vous êtes garanti que vous n'avez pas de dégâts de sec sur les plantes intérieures.
Merci beaucoup Jean-Pierre pour votre visite matinale. On rappelle que vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves. À très bientôt et bon week-end.
Pareil, et puis bon week-end à tout le monde, merci.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Les jardinières reviennent donc samedi prochain dès 7h comme d'habitude. Et nous serons en compagnie de Pierre-Yves Turcher, paysagiste à Tavannes. Et bien sûr, vous avez toute la semaine pour nous faire parvenir vos questions via le formulaire disponible sur notre site ou alors par SMS comme d'habitude. Il me reste à vous souhaiter un bon week-end, Brian.
Bon week-end à vous, Mylène.
Bonne taille de vos végétaux. Et puis, on se retrouve le week-end prochain, samedi prochain, à 7h. Voilà, j'ai tout dit. Bonne journée.
7h, 8h, les jardinières.